Bonjour à tous et bienvenue à Champ contre Champ, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission présentée par moi-même, Jean Lot, et qui sera animée par Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et Jean-Michel Duquer. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
On est en temps de Noël, on aurait bien voulu rester dans cette joie-là et vous proposer des films pleins d'espérance, mais malheureusement, le monde, on peut dire que dans son ensemble, se moque un peu de l'espérance de Noël, et le cinéma qui en est le miroir continue, quand il est à son meilleur, en matière de témoignage et d'expression, de refléter les inquiétudes du monde. Donc voilà. Toutefois, même si on ne vous emmène pas dans une croisière à travers des berges couvertes de sapins en guirlandais, on vous emmène quand même dans un grand voyage à travers le monde. Dans les États-Unis des années 20, tout d'abord, avec le film de James Gray, The Immigrant. Puis en Chine, avec le grand réalisateur Ya Zhangke et sa dernière œuvre, A Touch of Sin. Après un passage au Guatemala, où nous parlerons de Rêve d'or, de Diego Quemada Diez, nous terminerons par le Japon avec le film rempli de chaleur et d'humanité, Tel père, tel fils, de Hirokazu Koreeda. Et tout ça, bien sûr, sans oublier les coups de cœur habituels. Commençons donc avec The Immigrant, le dernier film de James Gray. Après Little Odessa, après The Yards, après La nuit nous appartient, après Two Lovers, tous ces films qui avaient placé James Gray parmi les grands de l'écran international, c'était là un film très attendu. D'autant plus attendu que dans ce nouveau film qui débute avec l'arrivée à Ellis Island en 1920 de deux sœurs polonaises fuyant l'Europe, James Gray retourne au terreau premier de son inspiration, l'immigration. Un terreau largement nourri de son histoire personnelle, puisqu'il est descendant d'une famille juive qui a fui la Russie en 1920 pour s'établir à Little Odessa, le quartier des Juifs russes de New York. Ajoutons, et ce n'est pas rien pour ce film, qu'on retrouve à l'affiche Marion Cotillard, associée à l'acteur fétiche de James Gray, Joaquin Phoenix, et que la présence à la lumière de Darius Kondji est une garantie d'image somptueuse. Alors pour toi, Françoise, s'agit-il d'un nouveau grand film de James Gray ?
Grand, je dirais que c'est James Gray qui est grand. C'est un très grand réalisateur américain dont les quatre derniers films dont tu nous as parlé nous ont émerveillés, touchés au plus profond. Mais peut-être serais-je plus réservé concernant The Immigrant, qui ne m'a pas vraiment convaincu. Pourtant, le sujet est beau, c'est un vrai mélo. Les bons mélos ne courent pas les rues, c'est un plat fin dont on espère se régaler. Et James Gray nous avait déjà montré son talent dans ce domaine avec le magnifique Two Lovers. Donc, j'espérais. Tous les ingrédients étaient là. James Gray comme maître d'œuvre, le chef-op talentueux, deux acteurs qui ont fait leur preuve, un sujet en or, et plouf, le soufflet n'a pas pris. Alors, le sujet du film, on est en janvier 1921. Eva, qui est incarnée par Marion Cotillard, donc Eva et sa sœur, Magda, sont deux orphelines, et nous y voilà, qui ont quitté leur Pologne natale pour la Terre promise. Donc, elles débarquent à Ellis Island. Magda, atteinte de tuberculose et placée en quarantaine, Eva, seule et désemparée, tombe dans les filets d'un certain Bruno Weiss, le grand Joaquin Phoenix, qui lui offre son aide. En réalité, c'est un souteneur qui tient un bar miteux à Manhattan, où il exhibe des danseuses fort peu vêtues. Mais Eva est prête à tous les sacrifices pour sauver sa sœur.
Et voilà les ingrédients de toute une promesse d'un super mélo. Mélo, d'où vient ta réserve ?
Je crois, hélas, qu'elle vient de l'interprétation de Marion Cotillard, qui occupe l'écran d'un bout à l'autre du film. C'est Cotillard dans un rôle de sainte. Le visage douloureux, vaguement auréolé de lumière. Elle demeure figée de douleur et inexpressive à force de vouloir exprimer. À mes yeux, elle ne délivre aucune émotion. Je l'ai trouvée fade, ennuyeuse, pas convaincante du tout. En deux mots, elle plombe le film.
Oh là là, c'est ton dernier mot ?
Non, moi je veux rendre hommage au travail de Darius Kondji, le chef-op. C'est un magicien de la lumière. New York devient un décor de théâtre, avec ses rues boueuses et grouillantes, couleur sépia, et surgit tout droit de la mémoire des premiers immigrés. Kondji éclaire magistralement également les scènes d'intérieur, étouffantes, comme le bar interlope de Bruno, ou bien encore comme son appartement. Il sait rendre aussi, je trouve, la froideur du hall immense d'Ellis Island où s'entassent ces immigrants fraîchement débarqués. Et encore la lumière blafarde, le petit jour, au pied des murailles de l'hôpital. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un vrai régal visuel. Et puisque j'en suis aux hommages, je voudrais nommer aussi, bien sûr, Joaquin Phoenix, qui donne vie et consistance au personnage complexe du souteneur amoureux, Bruno Weiss. Bruno comme brun, l'ombre, et Weiss comme blanc, la lumière. C'est un beau personnage de mélo, à la fois bienfaiteur et proxénète, fiévreux, ténébreux, traversé d'émotions contradictoires, plongé dans la faute et le remords. C'est bien le registre du mélo et il nous émeut, même si, dans la dernière scène, on pourrait penser qu'il en fait un peu trop. Bon, allez voir le film pour en juger vous-même.
Oui, je vois que ton avis quand même est assez réservé. Hein.
Réservé,
enfin,
oui.
Le mien aussi un peu, mais enfin, je crois quand même que finalement je suis un petit peu plus positif que toi. Bon, je suis d'accord avec toi à propos de Marion Cotillard. Enfin, moi, j'ai également trouvé assez terne et insignifiant dans son rôle de prostituée par sacrifice. Par contre, moi, j'ai trouvé que ce personnage de Bruno Weiss, réalisé par Joachim Phoenix, auquel d'ailleurs tu rends hommage, hein, a une stature suffisante. Il a une superbe création romanesque.
Oh,
et que
vrai,
ça permet de s'élever au-dessus de la seconde réussite du film.
C'est lui qui sauve le film. Hein.
Pas seulement.
Heureusement qu'il
parce
est
que
là.
Parce que j'oublie qu'il y a un autre personnage que tu as oublié de citer. C'est
Orlando.
Oui. Le cousin de Bruno, son oui. rival dans la conquête de Eva, magicien de cabaret. On le voit d'ailleurs sur scène pratiquer la lévitation. Ce qui caractérise admirablement le personnage d'ailleurs. Un homme léger, peu fiable, qui entre par les fenêtres, qui disparaît, revient et sur qui on ne peut jamais compter.
C'est un illusionniste.
Oui, ben je crois qu'il représente un peu le double de Bruno. Et je trouve que cette sorte d'être bicéphale, Bruno-Émile, est absolument une réussite.
Ah ben moi j'ai beaucoup aimé, hein. Moi je suis dans la catégorie des enthousiastes. Moi je range ce film un peu dans les... On a parlé de mélo effectivement, mais ça ressemble à un roman de Dickens, à un opéra de Verdi ou à un film de Griffith.
Tu fais ça par où là alors, hein.
Oui, mais je pense que parce qu'on est effectivement dans cet univers.
Et d'accord pour l'opéra.
Et puis on y retrouve aussi les thèmes chers à James Gray. Bon, on a parlé de l'immigration, mais aussi les haines familiales. Bon, ici c'est entre cousins et pas entre frères. Et puis aussi la complexité des individus qui sont ni vraiment bons ni vraiment mauvais. Et les parcours un peu chaotiques vers la rédemption.
Eva, elle est vraiment bonne. C'est une sainte. Non.
Eva, elle est vraiment bonne, oui et non. Elle fait des choses qu'elle n'approuve pas. Elle va d'ailleurs se confesser pour ça. Et puis, tu as parlé des deux cousins. Je pense que c'est effectivement un thème superbe, là, entre Bruno le souteur et puis le Orlando le magicien, qui semble un peu les deux facettes d'un même individu. Et puis, la façon, par exemple, dont est montrée la prise de pouvoir de Eva par Bruno. Je trouve ça absolument superbe d'intelligence et de subtilité, de la même façon que d'ailleurs qu'est montré la montée de la passion et de la folie chez Bruno. Alors pourquoi les réserves? Moi j'ai l'impression que ce film, il est presque trop classique pour nous émouvoir. C'est-à-dire c'est un peu le problème qu'a James Gray, parce que ça lui avait été déjà reproché pour Two Lovers. En fait, on n'apprécie plus tellement les images classiques trop sobres. Et puis peut-être que la superbe reconstitution historique aussi a fadi pour nous les sentiments.
Peut-être également
mais
un peu
quel
trop
superbe
long,
travail. Ouais, ouais. Donc moi je suis parmi les enthousiastes.
Jean-Michel, est-ce que tu es enthousiaste ou tu réserves?
Non, moi je suis très déçu, excusez-moi, mais enfin Marion Cotillard me fatigue et je dirais
faut pas juger tout de suite Marion Cotillard.
Je dirais avec plus de brutalité et moins de talent que Françoise que un petit peu la même chose. J'ai aimé Two Lovers, bien que j'ai déjà trouvé ça un peu trop sentimental pour mon goût, à cause de l'originalité et de la profondeur des portraits psychologiques que je ne retrouve pas du tout dans ce film. Le côté mélodramatique est cette fois-ci tellement accentué et, à mon sens, sans aucun profit pour le spectateur. Dès le début, marqué par une musique un peu guimauve, je suis sur mes gardes, avant de sentir des boutons me pousser lorsque, comme dans Zola, nous voyons d'abord Evan, qui ne trouve rien de mieux à faire pour trouver l'argent nécessaire au traitement de sa sœur, se prostituer en nous faisant bien comprendre, comme l'a un petit peu dit Françoise, qu'elle est une martyre. Ensuite, on nous montre une liaison ambiguë qui sent le déjà-vu en pareille situation et qui se met en place entre elle et Bruno. Et à la différence d'autres films de Gray, j'arrive pas à m'identifier à aucun des personnages. Et j'ai tous envie de les secouer plus que de me laisser émouvoir par une histoire de luxueux carton-pâte qui se déroule impeccablement et ne me touche pas.
Oui, je veux dire, j'ai eu du mal à m'identifier aussi. C'est peut-être ça un peu le problème, peut-être parce que c'est trop classique. Et toi, tu as réussi, Jacques, à t'identifier
moi,
le personnage.
Moi, je crois que c'est le problème, c'est qu'en fait, on ne peut plus faire du Zola ou on ne peut plus faire du Griffith.
Peut-être que c'est
et
ça.
Et parce que quelqu'un fait cela, eh bien, on a du mal à rentrer là-dedans parce qu'on a l'habitude, finalement, de films beaucoup plus brutaux, beaucoup plus rugueux et que ce style classique...
Néoclassique.
Non, François, le personnage d'Eva, il est plat, il est raplapla, il n'a rien à lui
mais
dire.
Je ne suis pas d'accord. Tu peux ne pas aimer Marion Cotillard, mais le personnage en lui-même n'est pas plat.
Oui, mais elle n'évolue pas. Elle est la même de la première à la dernière image. Si tu trouves ton évolution, j'étais un peu déçu. Je n'ai pas trouvé qu'elle évoluait.
Et puis, il y a des scènes qui passent pas. Je pense à la scène où on voit Bruno, puis tout son harem sous un pont.
Oui, Il y a quelques scènes qui tiennent pas, mais il y en a d'autres, par contre, qui sont magnifiques.
Et la dernière image magnifique.
Oui,
c'est le partage de l'agent 2 entre Bruno d'un côté et la femme qui s'en va dans l'eau sur le bateau, elle est magnifique.
Les images, mais on peut plus faire des films comme ça. C'est trop tard maintenant.
Oui, mais c'est ce que tu dis.
Ah oui, mais alors. Mais espérons pour James Gray que ce n'est pas trop tard. Et on va passer au film suivant qui est... Alors c'est tout à fait différent. Tout à fait, on ne pourra pas dire qu'on est dans le classique ou dans l'académique. Avec A Touch of Sin du réalisateur chinois Ya Zhangke, dont on peut dire qu'il est le plus grand cinéaste chinois contemporain. C'est un cinéaste qui ne cesse de donner des images sans phare de la Chine contemporaine, mais en même temps, il rencontre du séisme qu'a provoqué l'entrée de la Chine dans l'ère du capitalisme sauvage. Bon, c'est un cinéaste qui pratique aussi un étonnant mélange de genres. Il passe de la fiction classique, comme dans ses premiers films, qui s'est avoué en disant Pickpocket et Plaisir inconnu, à une espèce d'hybridation fiction-documentaire dans Still Life, pour passer vraiment au pur documentaire avec 24 City, avec I Wish I Knew. Et puis voilà qu'aujourd'hui, c'est encore un nouveau virage avec ce A Touch of Sin qui tient à la fois de la fiction, mais une fiction fractionnée dans laquelle plusieurs histoires successives s'enchaînent. Mais ça tient aussi du documentaire sur le règne de la corruption et de la violence en Chine. Ça tient du thriller par sa dramaturgie, ses scènes d'action. Et même, par moments, ça tient du film d'arts martiaux. Et encore, Jean-Michel, j'en ai peut-être oublié.
Non, tu l'as pas oublié. Enfin, en tout cas, rien d'important, c'est tout à fait ça. Et c'est un film brillant, brillantissime, qui est un docu-fiction, comme un certain nombre de films qu'on a discuté aujourd'hui, qui aurait dû, à Cannes, ne pas se voir décerner un prix du scénario en guise de consolation, mais le Grand Prix ou la Palme d'Or, incontestablement, qui méritait au moins autant que La Vie d'Adèle. Le titre est un hommage au film A Touch of Zen, 1969, de King Hu, qui est un réalisateur hongkongais considéré comme un des plus importants du cinéma chinois, avec ses films de chevalier errant ou de héros martial. Comment traduire le titre de Ya Zhangke? Je suis tenté par une litote ironique, un zeste de péché, car le film déploie non pas un zeste, mais un tombereau de péché. Les classiques sept péchés capitaux de notre culture occidentale paraissent bien véniels à côté de ceux que sont le meurtre, la corruption, la rapine, le viol, l'exploitation des plus faibles qui fleurissent et accablent de souffrance la Chine contemporaine en proie à une forte migration interne et à un développement urbain et industriel rapide, mais très inégalitaire, qui empêche la plupart de profiter de la répartition des richesses. Alors, librement inspiré de faits réels, ce sont quatre nouvelles cinématographiques qui s'enchaînent, s'entremêlent et s'interpénètrent. Tout d'abord, Dahai, un mineur du Shaanxi, au nord, patrie du réalisateur lui-même, exaspéré par la corruption des autorités de son village qui ne répartissent pas les bénéfices de la mine, se révolte et va, incompris, se faire justice lui-même. Deuxième scène, Zhu San, un travailleur migrant, retourne à motocyclette pour le nouvel an à Chongqing, auprès des siens, et découvre en chemin les ressources qu'offre la possession d'une arme à feu. Troisième élément, Xiao Yu, une hôtesse de salon de massage, de sauna, dans le Hubei, est poussée à bout par le harcèlement d'un riche client. Quatrième temps, Xiao Hui, un jeune ouvrier d'usine de la région de Canton, passe d'un travail à l'autre dans des conditions de plus en plus désespérantes et dégradantes. Et dans le fond, ces histoires ont en commun l'éclosion chez les quatre protagonistes d'une bouffée de violence, sous trop de souffrances subies, sous trop d'injustices, d'humiliations, et la résolution de cette crise en un passage à l'acte meurtrier.
Mais finalement, Jean-Michel, s'il s'agit avant tout de faits divers, quel est l'intérêt de multiplier les genres cinématographiques et par exemple, d'aborder même celui du film d'arts martiaux?
Bon, alors, le réalisateur est impressionné par la diffusion, par les nouveaux médias, de ces faits divers, et l'histoire de la jeune femme violée, par exemple, frappée avec des billets, qui est particulièrement impressionnante, a impressionné tout le monde en Chine, et le réalisateur a trouvé que ces personnages de faits divers étaient en fait très proches de ceux des films d'arts martiaux, ce qui lui permet de traiter les scènes de violence de façon très subtile, tantôt de façon très réaliste, tantôt de façon très stylisée, comme dans les films de sabre. Du reste, dans ces films de sabre, ce sont les mêmes injustices sociales qui poussaient et qui poussent les hommes à se révolter.
Oui, mais pourquoi ce vagabondage géographique dans le film plutôt que d'approfondir une de ces histoires suffisamment riche en elle-même? Est-ce que ça n'est pas la mise en scène?
Bon, alors le réalisateur a voulu nous faire comprendre la multiplicité, la complexité. Il embrasse la complexité des événements qui grouillent du nord au sud de cette immense Chine où tout le monde circule, et c'est ce qu'il a fait lui-même pour tourner le film, aux quatre coins du pays, dans les campagnes qui se vident, comme dans les villes qui deviennent des zones de non-droit. Et pour ce qui est de la mise en scène, le fil rouge est bien celui de la narration traditionnelle des contes et des opéras chinois ponctués des démonstrations stylisées des films d'arts martiaux. Et ce film documente de façon implacable, mais non sans humour, parce qu'à plusieurs moments, on rit ou on sourit peut-être un petit peu avec amertume, certains des effets extrêmes de la violence de la société chinoise contemporaine sont montrés. Et ce film confère à chacun de ses parcours de vie d'une façon très efficace et sans aucune explication psychologique, mais en les constatant, la dimension d'un destin fragile, tragique, en articulant ces histoires comme sur une tapisserie, ce qui permet, malgré la brutalité et la violence des faits, une certaine distanciation par rapport à leur réalisme, et nous laisse, il est vrai, plus sidérés qu'émus véritablement.
Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un film absolument superbe qui a mérité effectivement la Palme ou le Grand Prix, ou alors le prix du scénario plus celui de la mise en scène.
Oui, absolument.
Car il y a une mise en scène absolument extraordinaire, chaque plan est admirable, et de plus cette mise en scène ne cesse d'être inventive et de changer en permanence au cours du film. Je pense par exemple au début du film, à Dai Chosamoto, ce début est extraordinaire. Dai Chosamoto faisant sauter dans sa main de manière répétitive une tomate, on pense évidemment à Scarface. Et juste après, il y a l'arrivée du glacial Zhou Chan sur sa moto et la façon qu'il a d'exécuter froidement, systématiquement, les trois jeunes braqueurs qui veulent le braquer. Là, il y a à la fois une espèce d'efficacité cinématographique digne des meilleurs thrillers du cinéma américain. Et en même temps, tout est déjà dit du film. Parce qu'on est déjà face à des gens qui n'en peuvent plus, qui sont au bout d'eux-mêmes et qui vont craquer ou qui ont craqué.
Le ton est donné tout de suite. Dès la première minute, le ton est donné.
Tout à fait. Et je crois qu'il y a toute une suite de scènes comme ça qui sont saisissantes sur le plan du cinéma, Jacques.
Alors, moi, je partage tout ce que vous avez dit, enfin, une partie de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, le film est magnifique, chaque scène est superbe, les cadrages sont efficaces, on retrouve toutes les qualités esthétiques des films de Jiazhenke, ces paysages magnifiques, l'esthétisme même des scènes de violence. Mais, parce que pour moi, il y a un mais, j'ai quand même été un petit peu déçu par ce film. Et je crois que ça tient au fait que, finalement, au choix du réalisateur de raconter quatre histoires successives, sans vraiment de lien entre elles, qui fait que... alors si, bien sûr, elles ont le lien de... Elles racontent toutes, chacune, un aspect de la violence dans la société chinoise. Mais cette découpe... fait que finalement, on quitte les personnages avant de s'y intéresser. C'est-à-dire qu'en fait, on reste trop détaché de ces personnages qui font, leur petite apparition.
Oui, on a une frustration systématique. Voilà. Chaque fois qu'on s'attarde, on passe à autre chose.
Finalement, ça s'articule et qu'on retrouve les personnages d'une séquence à l'autre.
Oui, mais de manière un peu artificielle.
Oui, donc il y a des croisements.
Les croisements, c'est le petit gimmick, quoi. Et donc, pour moi, à la fois, j'admire beaucoup ce film et il me laisse un peu froid. Ouais. Je suis pas totalement rentré dedans à cause de ça.
Oui, François,
Oui, je crois que c'est vrai que ces quatre histoires peuvent avoir cet effet-là sur nous. On s'attache pas aux personnages parce qu'ils font, ils sont mêlés dans des histoires différentes. Ouais,
c'est très volontaire, je pense.
C'est très volontaire. Moi, j'ai été très sensible au côté visuel du film. En particulier, j'ai encore en mémoire cette première image où on voit un camion, une cargaison de tomates renversées sur la route. Il y a du rouge partout, mais c'est les tomates. Et petit à petit, ce rouge des tomates va devenir le rouge du sang qui éclabousse l'écran à tout moment. On a l'impression qu'il en rajoute dans ce domaine-là et je trouve qu'il nous fait passer du documentaire à la fiction ou à l'imaginaire par ce trop de sang.
C'est presque un western.
Également, j'ai bien aimé cette utilisation des animaux. Il y a partout des animaux qui nous font basculer dans du non-documentaire. Les buffles qui sont attachés dans un...
C'est malheureux cheval au début.
Cheval qui est battu à mort. Les poissons rouges, le serpent. Ouais. Il y a une utilisation des animaux qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et de la couleur et du rouge partout.
Ouais. Et puis il y a aussi cette façon qu'il a de changer de genre régulièrement, de passer du réalisme plus total à un onirisme extrêmement appuyé, comme ces serpents qui traversent la route, ou ensuite à ces scènes d'arts martiaux dont tu parlais, Jean-Michel.
Oui, c'est étonnant.
C'est vraiment d'un bout à l'autre totalement maîtrisé, Il y a un montage qui nous conduit, peut-être sans nous émouvoir, comme tu l'as dit, Jacques. Je suis d'accord, on est là un petit peu, on reste dans la froideur, mais on voit, il nous donne à voir le lien entre les dysfonctionnements sociaux et les dérapages individuels, sans les excuser ni les uns ni les autres. Il ne prend pas parti. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a eu le visa de censure, alors qu'on ne sait pas très bien si le film sera projeté encore en Chine, mais enfin, il a eu son visa de censure très, très habilement, et il dénonce aussi bien les excès de la vie sociale que les répercussions meurtrières que ça entraîne chez les individus eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il poursuit dans l'ensemble de la Chine, c'est donc une somme.
Oui, la dénonciation va d'ailleurs très loin, parce qu'en fait, non seulement il montre ces gens poussés à tuer, mais prenant un plaisir ensuite à tuer. D'une certaine manière, les trois premiers, bon, pas le dernier qui se suicide, mais les trois premiers, en fait, on les voit d'une manière ou d'une autre, finalement, d'ailleurs il y en a un, je crois que le deuxième le dit explicitement, bon, j'ai du plaisir en tirant avec mon pistolet, quoi. Le passage est très dur.
Très dur, oui. Oui, c'est sur même quelque chose de côté, fait un peu froid dans le dos, quoi, c'est-à-dire.
Ils sont pervertis par la perversion de la société.
Ouais, exactement. Bien, mais je crois que bon, c'est un film absolument incontournable. Hein, vraiment, c'était un des plus beaux films à voir actuellement. On va maintenant faire une petite pause musicale avant d'aborder la suite du programme. On vient donc de terminer avec la première partie de l'émission avec un film aux couleurs plutôt sombres, on ne la reprend pas avec beaucoup plus de bleu dans le ciel. Hein. Parce qu'on va parler en effet de Rêve d'or, premier film de Diego Quemada Díez, cinéaste d'origine espagnole qui avant de se lancer dans la réalisation a travaillé au cadrage et à la photographie avec des grands noms comme Alejandro González Iñárritu, avec Fernando Meirelles, avec Ken Loach, excusez du peu. Après trois courts-métrages, couverts de prix, il réalise donc ce Rêve d'or, un film choc, lui aussi béni des festivals puisqu'il reçoit à Cannes en 2013 le prix Un certain talent dans la sélection Un certain regard. Et si l'on pense effectivement parfois à Ken Loach dans la façon proche de documentaire qu'a Diego Quemada Díez de filmer cette histoire de trois jeunes qui quittent le Guatemala pour tenter de gagner les États-Unis, il y a dans ce premier film une justesse et une maîtrise qui impressionnent. À moins, Jacques, que tu ne partages pas cet avis.
Non, je suis tout à fait de cet avis, ce film est impressionnant. Il parle lui aussi de l'émigration, mais un siècle donc après l'époque des immigrants, et on voit d'ailleurs que la condition de l'émigrant, malheureusement, ne s'est pas vraiment améliorée. Alors ce qui a changé par contre, c'est la géographie des flux. Au début du XXe, les immigrants fuyaient l'Europe vers les États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les habitants de l'Amérique latine qui fuient leur misère pour le rêve américain. Alors, les héros de Rêve d'or viennent du Guatemala, en fait. Et comme chacun sait, pour aller du Guatemala aux États-Unis, il faut passer par le Mexique. Et on devrait même dire par l'enfer mexicain, quand on voit l'état de violence et de non-droit que nous dépeint le réalisateur. Donc ce sont trois adolescents, Juan, Sara et Samuel, qui quittent leur bidonville pour aller vers ce qu'ils espèrent une vie meilleure. En chemin, ils rencontrent Choke, un indien du Chiapas qui ne parle pas l'espagnol. Et leur périple va se poursuivre le long des voies de chemin de fer ou sur les wagons de train de marchandises qui se traînent à travers l'immense territoire mexicain. On pourrait appeler ce film en fait un rail movie.
Il y a un aspect documentaire dans ce film.
Oui, alors d'ailleurs le réalisateur parle de documentaire brut parce qu'on est plongé dès le début dans la misère qu'il fuit, le bidonville dans lequel Juan habite, la gigantesque décharge par laquelle il passe. Mais c'est surtout un terrible documentaire sur la société mexicaine. Il montre un pays où la violence est absolument sans limite. C'est d'ailleurs malheureusement l'image que renvoie actuellement la plupart des films mexicains. Alors, les policiers mexicains les frappent, les volent, les renvoient au Guatemala. Des gangs armés arrêtent leur train dans la campagne, rançonnent les hommes, emmènent les femmes dans des bordels. Des bandes profitent du désarroi des immigrants pour les kidnapper afin d'obtenir des rançons de leur famille. Et pour finir, les passeurs les utilisent comme mules pour leur faire transporter de la drogue à travers les tunnels qui franchissent la frontière américaine avec le Mexique. Donc le film nous décrit un univers véritablement impitoyable de vols, d'exécutions sommaires et dont peu réchappent.
Mais tout n'est pas aussi noir.
Non, heureusement, le réalisateur parle de son film aussi comme d'un poème épique. C'est l'histoire, au fond, d'un parcours initiatique, mais un parcours initiatique où on joue sa vie. Et de l'amitié qui lie ces jeunes, de la fraternité avec lesquelles ils affrontent leurs épreuves. Alors, les jeunes acteurs sont absolument formidables de présence. Ils montrent à la fois la volonté et puis la faiblesse de ces adolescents, l'alarme de celui qui abandonne, la maturité de la jeune fille, Sarah, qui s'interpose entre le Mexique et les Indiens. Et puis, on y voit aussi des moments de fraternité, des parenthèses de bonheur. Des paysans qui lancent des oranges aux immigrés, sur le toit des wagons, une fête le soir à l'exploitation agricole, un prêtre qui héberge et nourrit. On y voit aussi des images superbes, des ponts et des voies ferrées dans la campagne, des wagons rouillés pris dans la jungle, un peu comme des sculptures abstraites, ou des migrants sur les toits des wagons. Et le rêve d'or américain se termine dans un boulot sordide dans un abattoir. Mais, car il y a un mais, l'image finale, est très belle et poétique. Une neige qui tombe et qui apporte un peu d'espoir d'un rêve encore possible. Donc un film vraiment sans concession, qui cloue le spectateur sur son fauteuil, non pas tellement de violence montrée, parce qu'à la limite il y en a moins que dans le film dont on parlait tout à l'heure, mais de violence suggérée.
Oui, c'est un film qui impressionne, autant par son sujet que par sa réalisation. Par son sujet, malheureusement, terriblement actuel, et par sa réalisation d'autant plus efficace que, comme tu le dis, la violence est moins montrée que suggérée. Et puis d'ailleurs, ça change beaucoup de ces films sud-américains où il y a une espèce de complaisance dans l'étalage de la violence. Je pense par exemple à Ellie du Mexicain Amat Escalante qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Parce que dans Rêve d'or, il y a des instants de grande violence. Oui. Mais d'une part, ces violences ne cherchent pas à faire plonger le spectateur sous sa chaise. Et d'autre part, il y a une gestion de l'intensité dramatique tout à fait remarquable. Parce que ces moments de violence sont suivis ou précédés par des gros moments de tranquillité, presque de paix. Cela dit, enfin, j'ai quand même un peu de réserve dans la mesure où, en dehors de quelques moments très forts, très violents, je trouve que le développement de cette histoire m'a paru assez attendu. Y compris la fin d'ailleurs dans cette usine d'écarissage dont le côté métaphorique m'a paru un peu souligné. Voilà, ma première réaction à ce film.
Oui, j'ai trois remarques et une remarque sur la fin. Les trois remarques, c'est que c'est extrêmement important d'avoir ce film parce que c'est pas seulement les Guatébaltèques ou les Mexicains, ça attire l'attention sur tous les migrants du monde.
Tout à fait.
À une époque où c'est particulièrement important et c'est un film courageux. Donc ça, c'est ma première remarque.
Non, mais j'en rate.
La deuxième, c'est que c'est un film tout public parce que c'est un film d'aventure formidable. Pour des jeunes, des adultes, avec ses rebondissements et ses péripéties. Certaines sont un tout petit peu laborieuses, vous l'avez dit aussi, mais c'est une véritable odyssée, et on a vraiment l'impression de faire le voyage avec ces jeunes gens, qui deviennent d'ailleurs de moins en moins nombreux au fur et à mesure, puisque seul Juan arrive à la fin.
Absolument, et par rapport à ce que disait Jean, qui s'est un peu convenu, il y a des choses quand même cause le réalisateur qui ne sont pas convenues du tout, qui ont de faire disparaître ces personnages.
Oui, c'est une grande erreur du scénario.
Oui.
Et François, toi, comment tu...
Moi, j'ai vu, comme vous, un film vraiment poignant, dramatique, le drame des migrants. C'est un sujet difficile, c'est très médiatisé. J'ai suivi le film et parfois je m'en suis détachée. Je me demandais pourquoi tellement c'était fort. Et je crois que c'est parce que c'était trop fort, qu'il y avait peut-être, mais c'est personnel, trop de péripéties. J'avais l'impression que c'était trop, que je n'arrivais pas à suivre avec autant d'aventures successives sur ces trois jeunes adolescents. Et la dernière séquence, en effet, à l'abattoir, où on les voit dépecer des carcasses de viande sanguinolentes, avec en mettant les morceaux nobles d'un côté et les déchets de l'autre. Ça m'a paru un peu trop, j'avais envie de dire...
Une impression de dramatisation excessive.
De grâce, n'en rajoutez plus, on avait compris, c'est trop. Mais bon, c'est très personnel, je comprends qu'on puisse ne pas ressentir ce que je suis en train de dire.
Oui, tu ne m'as pas laissé tout à fait terminer, parce qu'il y a deux choses extrêmement importantes, je trouve, et très riches. D'une part, le mystère de l'altérité avec l'Indien Choke. Et c'est quelque chose qui est très très bien montré dans ce film. Et deuxièmement, l'évolution des relations entre cet Indien... Et Juan, qui est aussi quelque chose de très bien traité. Donc il y a beaucoup de choses importantes.
Ils sont remarquables.
Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que justement, j'ai trouvé que ces relations étaient extrêmement attendues. À chaque instant, on sait qu'est-ce qui va se passer, et on sait la réaction d'avance.
Oui, Jack.
Non, mais tu as partiellement raison. Elles sont attendues à la réserve près que justement le fait qu'ils ne puissent pas se parler, puisqu'en fait l'un ne parle pas espagnol, rend quand même cette attente un peu particulière.
Un peu particulière.
Mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant qu'ils ne parlent pas l'espagnol.
Donc on est quand même tous presque d'accord.
Oui, on est presque d'accord, tout à fait.
Tout à fait, pour dire que c'est quand même un film. Pour un premier film, c'est assez remarquable et qu'il faut aller voir ce film. Voilà. Bien, bon, on va écouter changer un petit peu de genre quand même. On va essayer d'aborder, pour terminer, continuer cette émission, un film un peu plus optimiste, nettement plus optimiste, même Tel Père, Tel Fils, qui, signalons-le, a reçu cette année une mention spéciale du jury œcuménique de Cannes. Son auteur en est Kore Eda Hirakazu, une des figures majeures du cinéma japonais contemporain. Si Kore Eda est l'auteur d'une œuvre très éclectique, sa spécialité, si je puis dire, est un peu ça, les films sur l'enfance, avec entre autres Nobody Knows en 2004, I Wish Know the Secret en 2011, et c'est encore un film sur l'enfance que celui-ci, les personnages principaux étant deux petits garçons de 6 ans, Keita et Rusei. Le premier appartient à une famille riche, père architecte, grand appartement dans un immeuble vert et métal et tout à l'avenant. Le second est d'un milieu tout ce qu'il y a plus modeste. Son père tient une petite boutique d'électricité dans un quartier populaire. Alors il se trouve que ces deux enfants ont non seulement le même âge, mais sont nés le même jour dans le même hôpital. C'est peut-être l'effet du hasard, mais c'est surtout le sujet du film. À la naissance, il y a eu inversion d'enfants dans l'hôpital. Chacun est parti avec le bébé de l'autre. On vient de s'en apercevoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Échange ou pas? Faut-il privilégier le ruban de l'ADN ou le lien de l'histoire partagée?
C'est un vrai dilemme cornélien, en somme. Mais au fait, est-ce que ça débouche véritablement sur une tragédie?
On aurait pu craindre de voir une tragédie sortir de ce sac de nœuds déposé par le destin sur le palier des deux familles. Mais plutôt que des grandes orgues, Kore Eda préfère jouer d'une musique de chambre, drôle, poétique, tendre, où il fait s'opposer les deux motifs superbement discordants des deux familles et où, entre désarroi de l'un et résistance de l'autre, Keita et Yosei montrent l'obéissance déboussolée de petits palais balancés sans ménagement excessif d'abord du jeu à l'autre. Avec comme thème central la question qui hante l'auteur depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis qu'il est lui-même père, la paternité, c'est quoi? Et la réponse est très différente selon qu'il s'agisse de Yudai, le père de Rusei, ou de Ryota, celui de Kaite. Yudai, vaguement glandeur, facilement combinard, et du genre à se rouler avec ses mômes dans le bac à sable. Rien de tel chez Ryota, qui a la raideur d'un tuyau d'orgue moulé dans un complet 3 pièces, et qui ne trouve en rien chez Kaita des traits de sa propre personnalité de battant. On arrive à penser comme une poule qui aurait couvé un canard. Ceci explique cela.
Mais alors comment sort-on de cette embrouille?
Oh, je vais bien sûr pas le révéler. Disons simplement que Kore Eda aime trop ses personnages pour trancher cette situation inextricable en faisant souffrir tout le monde. Il s'en tire à la normande, si je puis dire. Mais peut-être son patrimoine génétique comporte-t-il quelques chromosomes de Calvados. On n'est jamais sûr de l'ADN qu'on croit avoir. Son film est là pour le prouver.
Oui, alors nous avons manifestement vu le même film, mais pas reçu de la même façon, parce que
je m'attends à ça, t'as pas Jean-Michel.
Il y a beaucoup d'humanité, mais je vais être un peu plus négatif, comme je l'ai été pour le premier film que nous avons discuté, parce que je dois confesser que je n'arrive pas à partager ton enthousiasme sur un film qui m'a un peu déçu et ennuyé. Faut que je m'en l'explique. Le sujet en lui-même n'est pas très original. La situation de départ, celle de deux bébés échangés à la naissance, est très exceptionnel, et curieusement, on vient d'apprendre l'histoire d'un Japonais né en 53 dans un milieu aisé, découvrant à 60 ans sa vraie filiation et qu'il a vécu injustement, entre guillemets, une vie de pauvre. Au cinéma, c'est pas franchement nouveau. On a vu entre autres Le Fils de l'autre de Lorraine Lévy et La vie est un long fleuve tranquille de Jacques Méliès.
Oui, mais c'était pas du tout sur le même ton.
C'était pas du tout sur le même ton.
La vie est un long fleuve tranquille, c'est une espèce de chronique familiale.
Tout à fait.
Visant simplement la comédie, c'était pas un film profond.
Mais Kore Eda, donc, pour sa part, dont le regard ne m'a jamais paru aussi normatif et moralisateur qu'ici, nous donne une tranche de vie dont la mise en scène et l'interprétation n'apportent rien de vraiment nouveau par rapport à ses films précédents. Surtout Nobody Knows et Still Walking, qui étaient remarquables, et surtout beaucoup plus nuancés et attachants pour moi. Certes, au sein des deux couples parentaux, il s'intéresse davantage et de façon asymétrique au père, ce qui est un élément positif, ce qui aurait pu convaincre, mais développé au sein d'une intrigue moins schématique. On est surpris d'assister un peu indifférent à cette histoire qui devrait m'émouvoir davantage parce que malheureusement elle est trop convenue et l'émotion est trop attendue. Et le film ne permet pas, pour moi, de sortir des idées reçues sur la paternité et le cloisonnement social. Alors, il y a trois choses positives. La musique des variations Goldberg, qu'on entend. trois choses. Non, il y a cette chose-là. Parce que ce qui est moins positif, c'est que le réalisateur a été comparé à un Claude Sautet japonais, ce qui, effectivement, pour moi, n'est pas tellement quelque chose...
C'est pas forcément un compliment.
C'est pas forcément un compliment. Et on a beaucoup dit que c'était très bien joué par les enfants. Je ne partage pas cette idée. Je préfère de beaucoup la façon dont Doyon dirige les enfants.
Oui, enfin Jean-Michel, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis d'accord que le sujet est un peu plus, moins classique, beaucoup plus classique que les précédents, beaucoup moins originaux et beaucoup moins porté sur l'enfance. Parce qu'en fait, là, le véritable centre du film, c'est pas l'enfance, c'est pas les enfants, c'est le père. Et à travers le père, c'est Kore-eda lui-même, dont il dit bien que ce film, ce qui lui a inspiré ce film, c'est la propre difficulté qu'il a eue, lui, à se sentir père. Donc, il se pose cette question et il le pose à travers son film. Et moi, je trouve que, j'ai beaucoup aimé cette espèce d'opposition entre la façon dont il met face à face ces deux familles qui sont toutes extrêmement différentes. Et puis, j'ai bien aimé le portrait de ces deux enfants, Keita, qui dans la soumission admirative et vaguement coupable face à un père dont il sait qu'il ne trouve pas comme il devrait être. Et enfin, je trouve que Russell est très bien disséné, justement, à la fois effronté et insolent, quand il répond au père de Keita de manière systématique, pourquoi toutes les questions qu'il lui pose. Je trouve qu'il y a une espèce d'opposition entre les deux enfants qui me semble très, très, très bien réussie.
Il faudra que Françoise et Jacques, nous donnent leur avis sur ce film aussi.
Oui, parce que malheureusement, il n'y a que nous deux l'avoir vu, donc à pouvoir donner notre avis. Mais je suis sûr qu'après ça, ils vont se précipiter, puisque le film sort demain. Au
et qu'il a eu le prix du jury
œcuménique
à Cannes.
Bon, le film ne perd rien pour attendre.
Oui. Mais vous nous direz à la prochaine fois si vous avez apprécié ce film. Bon, il nous reste donc encore du temps. Il faut passer donc deux coups de cœur qui sont également des films de détente. On peut très nettement conseiller pour cette période de fête en s'excusant presque un peu d'avoir passé trois films terribles pour commencer. Jacques, tu veux nous parler d'un film indien à pur moment de plaisir, The Lunchbox.
Ah oui, alors The Lunchbox, j'ai beaucoup aimé The Lunchbox qui nous vient d'Inde, comme tu dis, et c'est un magnifique moment de détente pour les fêtes de fin d'année, ce que n'étaient pas forcément les premiers films dont on a parlé. Ce film de Ritesh Batra donc, a été sélectionné à Cannes pour la semaine de la critique. Et il nous invite à goûter par les yeux la cuisine indienne. Alors l'histoire nous plonge au cœur de Bombay et on apprend que dans cette mégapole de 20 millions d'habitants, un dispositif bien huilé, à base de porteurs, de bicyclettes, de trains de banlieue, permet d'acheminer chaque jour des milliers, peut-être des millions, de gamelles remplies de repas qui ont été cuisinées par des épouses attentionnées pour leurs maris employés de bureau. Donc c'est un système qui est unique au monde, qui a été audité par de grands cabinets américains et qui est réputé infaillible. Et pourtant, évidemment, l'erreur arrive. Les plats délicieux et pimentés que mitonne la belle Illa, pour reconquérir d'ailleurs le cœur de son mari un peu tiède, arrivent sur le bureau d'un comptable, veuf, proche de la retraite, Monsieur Sajan Fernandez. Et ces deux êtres meurtris vont commencer à échanger par de petits billets cachés dans les gamelles. Alors, comme vous le voyez, la trame est ténue, on n'est pas sur une grande épopée. Mais le film est rempli d'humour et de moments comiques, renforcés aussi par les personnages secondaires. On a le jeune adjoint hâbleur du comptable, et un peu escroc. Et puis on a la voisine invisible, qui fournit des conseils matrimoniaux, des recettes de cuisine, et même les épices par la fenêtre. Et puis il est aussi plein de tendresse pour ces personnages. Il faut voir comment le vieux comptable rajeunit peu à peu jusqu'à envisager une aventure, comment le sourire reparaît sur son visage, et puis comment la belle Illa attend avec impatience les lettres de sa Jeanne. On pense, pour faire une comparaison, aux comédies de Lubitsch, et dans mon esprit c'est un haut compliment en voyant ce travail délicat sur les sentiments des personnages et puis cette souriante mélancolie qui colore leur relation. Et puis ce film est aussi intéressant pour nous Français sous un autre aspect. Il nous fait pénétrer dans Bombay, dans ses rues surpeuplées, dans ses trains bondés. Et il nous montre un peu comment cette foule arrive à survivre en s'organisant.
Alors, un bon conseil, faites-vous ce petit plaisir pour les fêtes, allez goûter la cuisine de la belle Hila en voyant The Lunchbox.
Alors, ce qu'on comprend bien, c'est le Lubitsch indien, en quelque sorte.
Peut-être. C'est son premier film, alors il faudra juger. Il faudra
juger la suite.
Mais pour l'instant, effectivement, il est dans la trace de Lubitsch.
Jean-Michel, toi, pour faire plaisir à nos auditeurs, tu as choisi le dernier film de Scorsese, Le Loup de Wall Street.
Oui. Le Loup de Wall Street qui va sortir le 25 décembre en salle. Scorsese, on n'a pas besoin de le présenter. On attend toujours ses films avec beaucoup d'impatience. Et là, c'est un film qui est réellement jouissif. Un docu-fiction à nouveau avec une allusion aux méfaits des traders à Wall Street, à l'histoire de Lehman Brothers, à Kerviel, si on veut, et transformé par la grâce de Scorsese en un pamphlet hyper réaliste endiablé qui, 3 heures durant, baigne le spectateur dans un humour corrosif et dévastateur et dépeint avec allégresse notre triste humanité en proie aux 3 démons qui l'excitent et qui sont mis en exergue dans ce film, à savoir le dollar, la drogue et la débauche. Le film s'inspire des mémoires de Jordan Belfort, un ancien courtier de Wall Street entré au bas de l'échelle chez L.F. Rothschild. Aventurier des temps modernes, cet homme commença à édifier sa fortune et celle de sa mafia sur la crédulité de clients à qui il vendait avec de lourdes commissions des actions à bas prix non cotées en bourse, avant d'être condamné à 20 mois de prison en raison de son refus de collaborer avec les autorités dans le cadre de cette gigantesque arnaque financière. Alors, le scénario de Terence Winter, réputé pour la série télévisée Les Sopranos, que vous connaissez peut-être, pas moi.
Non, je n'ai pas cette chance.
Mené à bride abattue, ce scénario arrive presque constamment à tenir en haleine un public fasciné par la performance inquiétante mais jubilatoire et pleine de panache de Leonardo DiCaprio qui s'améliore de film en film. Au-delà de la forme caricaturale et grotesque de l'œuvre, on retrouve l'attrait de Scorsese pour les univers marginaux à l'éthique dévoyée et ici, ce sont les ressorts de la criminalité financière qui sont démontés avec l'addiction à la boulimie d'argent, de sexe et de pouvoir. Une véritable réussite.
Oui, ben non, c'est une veine qui n'est pas très fréquente chez Scorsese, quand
non,
même, ce type.
Tout. Pas du tout, c'est différent de ce qu'on peut voir habituellement, oui.
Oui, mais effectivement, c'est certainement un bon film à aller voir pour les soirées qui viennent. Ça a l'air, je ne l'ai pas vu, mais je me hâterai d'aller le voir. Bon, je crois qu'il est à peu près le temps devenu de nous quitter. Ben merci à Françoise, à Jacques et à Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique, et merci à tous ceux qui l'ont écouté et à qui chant contre chant comme profil souhaite un Noël rempli de joie et de lumière.
Et de bon film.
Chant contre et de bon film.
Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël à tous. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois de 13h15 à 14h. Notre prochaine rencontre aura donc lieu l'année prochaine, le mardi 28 janvier.